L'information, la culture, les bons plans et les personnalités qui font l'actu. Décrypté par les meilleurs, c'est Check l'actu avec Olivia Marc.
Assuré toute l'année avec la Smerep. Retrouvez-nous sur www.smerep.fr.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée sur Radio VL. On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine dans Check l'actu. Alors aujourd'hui, une émission particulière puisqu'elles le sont toutes, mais plutôt habituelles également puisque vous retrouvez vos chroniqueurs préférés, vos chroniqueurs habituels. On retrouve Marie à qui on dit bonjour. Bonjour Marie, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire.
On retrouve également Nicolas que vous avez rencontré la semaine dernière. Nicolas, tu es revenu.
Et oui, tout va bien. J'ai eu envie là tout d'un coup. Là.
Bon, bah très bien. On est
une pulsion, une pulsion.
Ah, c'est génial, on parlera de ces pulsions dans Actu Média tout à l'heure. On trouve quelqu'un qui nous a manqué et qui fait son grand retour. Benjamin, bonjour.
Salut.
Ça va ?
Oui, ça va. Oui,
tu t'es perdu, comment se fait-il que tu sois là ?
Complètement paumé.
D'accord, ok, bon ben on est ravis de t'avoir retrouvé. On verra, on parlera sport tout à l'heure avec toi. On dit bonjour à Étienne.
Bonjour.
Ça va ?
Ouais, surtout depuis que Benjamin est là.
Ah oui, non mais
et nous, tu t'en fous.
Vous avez pas intérêt à nous faire un coup de la saison dernière.
Comment dire ?
Oui, bof, ça on en reparlera tout à l'heure. On dit bonjour à Farah qui ne va pas au ciné mais qui est là chaque semaine et ça fait plaisir. On dit bonjour également à deux invités, Elsa et Gauthier. Bonjour.
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 Bonjour Olivia, bonjour Radio VL.
Bah, c'est gentil en tout cas d'être avec nous. On verra tout à l'heure, pourquoi vous êtes là et de quoi vous allez nous parler. C'est un sujet qui peut intéresser hein, dans cette période où on se pose pour vous qui êtes peut-être lycéen la question d'admission post-bac. Bref, aujourd'hui on parlera comme d'habitude d'actualité, on parlera Mali, on parlera mariage pour tous. Je vous entends faire non, pas encore le mariage pour tous,
encore
mais on posera une question rapide. On vous demandera si vous pensez que l'Église a perdu son combat en fait contre le gouvernement. On parlera vite fait
contre
Mali, on parlera industrie pornographique et on parlera donc avec tous vos chroniqueurs sport, culture, théâtre, comme d'habitude. Alors je vous propose qu'on commence directement par vous poser cette question dont on parlait. Est-ce que à l'heure où c'est demain d'ailleurs la manif pour le mariage pour tous, la manif qui est toi je te vois venir la
je connais des gens qui viennent de Dijon pour aller manifester.
Exactement, il y a des gens qui viennent de partout hein. Toulouse, Dijon, la France, la province,
genre, ils prennent leur journée
et
pour
on a
aller
même
manifester.
Qui viennent de Belgique pour aller manifester contre le mariage pour tous. Exactement. Est-ce que vous pensez, on va pas rentrer dans les énormes débats qu'on a déjà eu sur cette radio et dans cette émission, est-ce que vous pensez que l'Église a perdu d'avance son combat comme l'écrivent les journaux?
Bon, c'est pas encore voté hein. On
c'est
sait
pas
jamais.
Encore voté, le projet de loi est présenté dans
ouais,
dans
mais on jours. Sait jamais, on sait jamais. Il y a toujours un petit peu de suspense. On sait
donc
jamais.
Toi, Nicolas, tu penses que on sait pas, il y a du suspense.
Tu penses ou t'espères, espèce de salaud.
t'es pour ou contre, toi?
Ah mais non, mais
voilà, c'est ce qu'elle voulait. Sinon, on va débattre.
Lui, il est pour. On en a déjà longuement entendu parler.
Moi, plutôt.
Je pense que la religion, elle a perdu son combat contre l'époque en général.
C'est très beau. Oula. Ce que tu viens de dire. Mais elle a perdu son combat contre
tout. Elle perd tous ses combats depuis longtemps.
Non, c'est vrai que la religion, elle a pas rentré là-dedans. Ça, je suis d'accord. Mais bon, après,
elle a pas rentré là-dedans. Elle a peut-être exprimé son parce que ce sont des Français comme les autres, donc que ce soit les
vraiment,
Juifs
non.
ou les musulmans ou
non, qui ça, les catholiques,
Les catholiques, non, bah, ou les
débattre,
religieux
toi et moi,
en,
tu vois.
En
je suis catholique, mais attention.
Religion générale, tous.
D'accord. Donc, ce ne sont pas vraiment des Français contre les autres, comme les autres. Donc, tu exclus environ 65% de la population française, c'est ça?
65%.
Bah
tu
oui.
Contre les scientologistes là.
Non mais
n'importe quoi.
Mais
en fait,
lui là, sérieux.
J'ai du mal à voir s'il est dans la provocation ou s'il est sérieux.
Mais bien, ça se voit.
Mais je vais mettre ça sur le compte de ces tribulations de la nuit dernière. J'imagine que t'as encore dû passer la nuit à jouer à je ne sais quel jeu bidon. Ce qui t'a empêché donc de te renseigner et de te rendre compte que 65% de la population française s'estime en tout cas croyant en Dieu ou religieux, voire religieux non pratiquant, mais religieux quand même.
Religieux non pratiquant.
Oui, ça existe.
C'est croyant en fait.
Non, alors non. Parce que en fait, il y a eu une étude qui montre que les Français disent voilà, moi je suis catholique par exemple, je je reconnais l'autorité du pape, etc. Mais clairement, aller à la messe tous les dimanches, ça m'embête un peu.
Ça,
mais
c'est
je suis
ça,
catholique.
C'est je voilà. suis catholique.
Donc tu es religieux non pratiquant. Ce qui est.
Je suis croyant.
Un
non, moi je dis je suis croyant, mais je vais jamais à la messe. C'est
voilà.
vrai. Mais je crois parfois quand il faut.
Oui, mais il y a des gens qui disent je suis religieux, je vais faire le carême, je vais faire.
Est-ce que tu reconnais l'Église? Est-ce que tu reconnais le pape? Et est-ce que tu suis.
Ah oui, non, je reconnais le pape, mais j'avoue, je suis croyant. Ouais, je suis croyant, mais je mets jamais un pied à l'église. Enfin, de temps en temps.
Mais ça quand
il y a un mariage, il y a la fête.
C'est autant un non-sens que d'être, je sais pas moi, nudiste non pratiquant. Tu vois, c'est
ouais,
aucun
mais...
non-sens. Si t'es nudiste, d'après sur la plage, tu veux pas être nudiste
c'est
non pratiquant.
Est-ce qu'on a besoin d'être dans une église pour croire? Est-ce qu'on a besoin d'être.
Non, mais dans ce cas-là, t'es croyant, t'es pas religieux
oui, croyant,
non pratiquant.
Ouais, mais du coup, tu reconnais pas le pape, t'as pas besoin.
Mais alors, pourquoi? C'est ma
parce
religion.
Que le pape,
c'est...
Non, mais le...
Tu peux
mais
être
c'est pas ta religion, c'est pas.
Bah si.
Bah non.
Mais j'étais baptisé, c'est ma religion.
Bah justement, ça c'est l'église.
Oula, attends, tu vas me rentrer dans.
Mais est-ce
débat,
que t'as
là.
Fait ta confirmation?
Oui, non, j'ai pas fait la confirmation, je me suis arrêté.
Donc
attends,
t'as pas confirmé ton baptême
une fois après.
Alors non, c'était
professeur. Est-ce que t'as passé le BAFA?
Ah oui, confirmation.
Ça devient une interrogation.
Qu'est-ce
que ça a à voir?
Le BAFA, c'est après le mariage,
c'est ça?
Mais quoi?
C'est le cinquième sacrement, BAFA.
Ah oui. Toi, tu vas éduquer qui toi?
Des enfants.
Ah, oula. Partons pas dans ce débat-là, là.
Ok. Bah non, j'ai un petit bug.
On
parle
des
en
informations
régie,
dans
voilà.
sa tête.
C'est ça, exactement, parce que voilà, genre Dieu me parle. oui, parce que moi, je suis très religieuse. Je crois en mon président de Radio Président. Si tu m'écoutes, je t'aime beaucoup et j'aimerais bien
Dieu, en fait.
Avoir une promotion. Par ailleurs, donc en fait, personne n'a répondu à ma question, donc c'est bien. Je l'ai lancée dans le vent. On ne sait pas. Si vous en pensez quoi, Elsa et Gauthier, vous, l'Église a perdu son combat ou pas? Alors, le micro fou à pied dessus.
En effet, oui. Disons que pour nous, on ne va pas non plus s'éloigner dans ce genre de sujet. C'est pas, on n'est pas là pour ça. Donc on va.
On va pas se faire d'ennemis tout de suite.
Ils répondent pas à ta question non plus. Hein. Elle a pas de chance.
D'accord, j'ai bien compris. Il faut pas poser de questions précises. Personne ne veut se mouiller. Bon, très bien.
Non, moi, j'ai dit.
Oui,
je pense
à part
que...
Nicolas. Voilà. Nicolas est mon seul ami dans cette émission.
Chacun a le droit à s'exprimer.
Non, mais vous en pensez quoi?
S'ils sont si nombreux que ça, tant mieux pour eux. S'ils sont trois dans la rue à se les geler, ça les regarde.
D'accord,
c'est sympa.
Micro.
Voilà, tu as toujours la liberté de pouvoir manifester comme ça pour ton opinion, qu'elle soit partagée par des millions de personnes ou pas. Hein.
Oui, enfin là, c'est...
sauf si elle appelle à la haine.
Mais elle appelle pas à la haine.
Non, si elle appelle
à la haine ou qu'elle est diffamatoire.
Tu trouves que ça appelle à la haine?
Non, je parle liberté, en général. Des limites de la liberté d'expression.
Oui, bah voilà. Après, personne ne va manifester pour dire. Venez, on fait une manifestation pour dire qu'on est tous antisémites et c'est trop bien.
Ce qui arrive de temps en temps dans les
manifs le 1er mai.
Contre mariage pour tous, c'est qu'il y a parfois des mecs comme Civitas qui balancent des trucs qui sont pas hyper démocratiques.
Oui, mais il y a parfois dans les manifs pour le mariage pour tous des mecs de LGBT qui vont te sortir des trucs qui sont pas forcément non plus empreints d'amour du prochain. Donc,
on retourne dans la religion catholique.
Non, mais de bienveillance si tu préfères.
Oui, ils prônent ça, je sais pas.
Ils prônent l'amour. Ils sont mignons, les LGBT.
Sur cette affirmation totalement subjective et donc que je ne comprends pas, on va petite pause musicale. On va vous passer immédiatement donc un mashup de toutes les musiques qui ont cartonné en 2012. Ça va nous laisser le temps de nous bastonner, c'est parfait. À tout à l'heure.
Écoutez et réécoutez vos émissions favorites sur radiovl.fr, rubrique replay.
Don't know.
I'm stuck.
It's pumping music. Choose or one, choose it. How we do it. I gotta say that with the music. Music. Music.
D'être resté avec nous pendant ce petit mash-up concocté exprès pour nous et qui nous a permis donc d'avoir une petite rétrospective des musiques de l'année 2012 pour ceux que ça intéresse. Bref, je vous propose de revenir à l'actualité avec donc la deuxième question du jour. Jérôme Cahuzac, acharnement ou recherche justifiée ?
Recherche justifiée.
Recherche justifiée. Alors d'abord, on va peut-être faire resituer l'affaire. Est-ce que quelqu'un peut le faire ?
Ah non,
non alors je m'en occupe. Jérôme Cahuzac, ministre, c'est gentil, ministre délégué au budget, qui est accusé donc par Mediapart depuis un petit moment d'avoir détenu des comptes en Suisse qui lui auraient permis donc d'échapper au fisc pour des sommes plutôt importantes et de faire un petit peu du blanchiment d'argent, ce qui est un petit peu problématique quand on est ministre délégué au budget. Donc entre les partisans, entre ceux qui disent écoutez c'est sa vie privée, on n'a pas à rentrer là-dedans.
Il est ministre.
Et ceux qui disent, il est ministre et en plus au budget. Il y en a quand même qui trouvent le moyen de dire, écoutez, ils ont tous eu des comptes en Suisse à un moment ou à un autre. Et il y en a même qui disent en plus, lui, même s'il a eu des comptes en Suisse, c'est quand même un mec bien parce que il a eu au moins l'initiative de fermer ce compte en Suisse.
On n'en sait rien encore. Hein.
On n'en sait rien. Peut-être qu'il en a d'autres. Dément.
Quoi. C'est plutôt un mec bien finalement.
Oui, c'est ça.
Non, il aurait arrêté avant de s'être fait choper. Mediapart l'accuse d'avoir détenu un compte en Suisse et que ce ne soit plus le cas.
Peut-être que le fisc n'était pas loin.
Ouais, il a pas attendu d'être en prison pour fermer le compte.
C'est ça.
Ouais,
voilà,
mais au moins, s'il a un compte en Suisse, qu'il le dise. Oui, j'ai un compte en Suisse, j'en ai eu, je l'ai fermé. Enfin, je sais pas, on sait rien là. C'est ça qui est bizarre.
Il réfute en plus depuis le début.
Bah oui, il dit que c'est faux. S'il en a eu un, qu'il le dise.
Oui, il réfute. Après, c'est Mediapart. Mediapart, ils sont quand même pas stupides. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de faire une accusation totalement calomnieuse s'ils ont pas de preuves, en sachant très bien qu'ils peuvent se retrouver condamnés et payer des sommes astronomiques.
En même temps, à mon avis, son refus, ça vient pas de lui, ça vient du président de la République. Il est dans une pente, la baisse de popularité de fou. Il a dû dire si en plus tu dis que c'est vrai, bah alors là, tu tombes au niveau zéro.
Oui, c'est-à-dire qu'il va pas l'admettre en plus, en sachant que s'il s'est débarrassé des comptes, surtout, ça... il va pas dire maintenant.
Mais justement, vaut mieux admettre et que ce soit prouvé après et dire on m'a désolé.
C'est
ou est-ce
une technique
qu'il vaut mieux
de com, ça.
Dire non et après tu passes pour un.
Si l'affaire est étouffée après, ben voilà.
Voilà, je pense que c'est plus au niveau de l'opinion publique.
Voilà, exactement.
Puis c'est vrai qu'en ce moment, on aime bien créer des pseudo scandales au gouvernement pour essayer de nous faire, pas trop penser à la dette ou quoi que ce soit. Parce que Aurélie
Filippetti,
qui aurait été en vacances à l'île Maurice, je sais pas, est-ce que ça vous intéresse vraiment ?
On en a rien à foutre.
Non, on en a strictement rien à faire. Et pourtant, ça fait un pseudo scandale parce que le président avait demandé à ses ministres de rester à 2 heures de Paris et elle est allée à l'île Maurice. Ouh là là, scandale.
Elle a dit qu'ils lui ont pas donné d'ordre. L'autre jour, là, je sais pas, dans une interview, elle a dit non, le président de la République a pas dit qu'on devait être à 2 heures de Paris. Donc maintenant.
Effectivement. Et juste, sachant qu'elle a reconnu d'être allée à l'île Maurice, et juste avant, les gens de son cabinet sur Europe 1 ou RTL, je sais plus, avaient dit ah non, la ministre n'est jamais allée à l'île Maurice.
Elle fait de la culture, mais pas de la communication, elle.
Exactement.
Ça, c'est sûr.
Ça, on l'a bien vu. En attendant, tout ça, c'était pour dire qu'en fait, on se moque de l'endroit où elle a pu passer ses vacances, tout comme certains se moquent du fait, de savoir si Jérôme Cahuzac a eu ou non. Un compte en Suisse et vous, est-ce que ça, vous trouvez que ça serait répréhensible si c'était le cas ou pas?
Machiavel disait.
Machiavel disait, je t'écoute.
Je
ne
demande qu'une
près.
Seule chose à mon dirigeant, d'avoir une vie publique irréprochable. Et privée aussi d'ailleurs. Ouais. Et en gros.
Et toi, est-ce que t'es irréprochable? Vas-y, dis.
Oui, mais c'est pas une personne
pas
publique.
Mais si, t'es bientôt ministre, tu savais pas?
J'aimerais bien.
Quand il sera ministre, il sera irréprochable.
C'est un scandale de plus. Et du coup, ça nous prouve une fois de plus que c'est tous des connards corrompus.
et qu'il serait peut-être temps d'arrêter de voter pour eux.
Mais dans ce cas-là, tu votes pour qui, vu que ce sont tous des connards corrompus, comme tu dis? Toi, t'es partisan de l'anarchie, toi.
Je suis pas anarchiste du tout.
Tu veux voter démocrate. Mélenchon, c'est ça?
Non, pas du tout. Stococratie.
Stococratie. Étienne Chouard, qu'on recevra un de ces jours d'ailleurs.
Il y a intérêt, oui.
Oui, bah, on le recevra. En attendant, Jérôme Cahuzac. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne répondez pas à mes questions? C'est insupportable.
On fait comme l'État, on détourne l'attention.
Je vois
tu
ça.
Vois.
C'est un très bon exercice.
Comme France Inter, on est en grève.
Non, mais juste, enfin, moi personnellement, je ne réponds pas parce que je trouve que de toute façon, c'est abusé. Donc, dans tous les cas, il va y avoir encore d'autres scandales et ainsi de suite. Tout le temps, va se passer un truc. Bah, avant, c'était. À un moment, ça a été. De toute façon, c'est dans le gouvernement en général, ça a été l'histoire avec OP. Là, après, c'était Depardieu. Et à chaque fois, il y a des embrouilles juste pour essayer de régler des problèmes. Enfin, pour essayer de ne pas régler les vrais problèmes. Et dans tous les cas, ça change quoi? Bon, bah, le mec, il avait un compte en Suisse. Il avait un compte en Suisse, ouais. Bah,
en c'est même
un...
temps.
Merci Marie, tu réponds à ma question.
Non, mais le mec, il sait ce qu'il fait. Il est ministre du budget et pourtant. Enfin, il est co-ministre quoi, du budget. Bon, il a un compte en Suisse. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si après François Hollande, il veut rien faire, il veut rien faire. Hein.
Non, mais en même temps, Mediapart, ouais, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire juste de l'audience. Voilà, ils ont trouvé un petit truc à mettre. Et puis voilà, tu vois. Non, mais si c'est faux. Non, mais tu disais.
Oui, mais c'est sûr que eux, leur but, c'est de faire de l'audience, bien sûr.
Oui, mais c'est leur métier, donc.
Oui, mais tu disais qu'ils allaient pas prendre le risque de le faire. Ils s'en foutent. Ils ont un budget pour payer des procès. Donc ils s'en foutent, tu vois, de ça. Ils peuvent prendre n'importe quel risque.
Ouais, mais non, je pense que c'est pas gratifiant pour eux parce que justement, si
après ça les décrédibilise.
Ouais, c'est ça décrédibilise.
Et la prochaine fois qu'ils sortent un truc, tout le monde dit de toute façon, ça vient de Mediapart, donc on sait pas trop.
Vu toutes les polémiques qu'il y a eu ces dernières années, les gens ils vont douter. Ils vont se dire peut-être que
c'est le gouvernement qui a donné l'ordre. Mais est-ce que ça change quelque chose que les gens doutent? Qu'on doute ou pas, est-ce que ça change quelque chose?
Oui, mais
ça
en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on dit un article de Mediapart a décrit ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le site de Mediapart, regarder. Donc eux, ils auront gagné d'une certaine. Il y aura un visiteur en plus.
Je sais pas, hein, moi j'ai entendu ça, j'ai beaucoup lu là-dessus, mais j'ai jamais été sur Mediapart regarder. Hein,
ah, moi j'ai été.
Bon, après, puis à la rigueur, on s'en fiche. Ouais. C'est bien qu'ils gagnent de l'argent.
Option média.
Mais mis à part ça, c'est pas grave s'ils gagnent de l'argent, c'est un média quoi.
Ah oui, non, mais je dis pas que c'est contre. Non, mais
c'est quoi le problème?
Olivia disait tout à l'heure en fait qu'ils n'allaient pas prendre le risque de le mettre en ligne, cet article. Eux ils s'en foutent. Je disais qu'ils ont un budget pour le faire. Dire que s'il y a un procès à la fin, ils ont un budget pour payer le procès. C'est comme les magazines People ou quoi que ce soit, ils mettent un truc en, tu vois.
Ouais, mais entre mettre la photo de Rachida Dati que t'avais pas le droit de mettre, sachant très bien que ça va te faire énormément de recettes, et donc après payer les indemnités que tu y devras, ça sera un coup de pierre dans l'eau, faire des informations, donner des informations calomnieuses quand tu es un média censé être
en même temps
sérieux,
c'est leur ligne éditoriale aussi. Enfin,
aussi, ouais.
C'est leur ligne éditoriale. Mediapart, c'est comme le canard enchaîné, ils vont toujours chercher les petites affaires. Combien t'as de personnalités qui disent ah non, j'ai vu ça dans le canard enchaîné, c'est totalement faux, etc. Trois mois après, ah bah oui, c'est vrai en fait. Alors ça s'est passé comme ça, mais voilà.
Ouais.
Donc bon, c'est leur truc.
Tu pourrais aussi dire de la même chose sur ce que le canard enchaîné attaquer Bettencourt.
Ouais.
Donc au final, Mediapart.
Alors Bettencourt, laquelle et... Parce qu'il y a beaucoup de confusion entre Bettencourt et Liliane Bettencourt. Si même les juges confondent, nous on n'est pas à l'abri non plus.
Bon, moi je suis d'accord avec ce que fait Mediapart. Maintenant tu vas vérifier ou non si c'est vrai. S'ils le font, c'est qu'à mon avis, ils ont quand même. Des infos.
Non, mais ils doivent avoir des infos. Mais je veux dire, parfois c'est, enfin, un média. Parfois, il y a un mec qui arrive, il dit, j'ai cette preuve que, etc. Ils vont pas vérifier leur information. Et eux, ils vont le mettre en ligne. Ils se disent, putain, c'est un scoop. Ils vont pas aller rechercher si c'est vrai parfois. Enfin, tu vois.
Il y en a beaucoup. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit le cas dans justement des journaux qui s'occupent exclusivement des scandales, genre le canard enchaîné. Justement, ils sont reconnus pour faire des enquêtes précises, sortir des trucs que personne savait, etc.
Non, mais après,
dans ce cas-là, moi aussi je t'en prends un quand je veux de scandale.
Ça dépend quel est ton auditeur ou quel est ton lecteur aussi.
Non, mais Étienne,
Mediapart et
je suis pas en train de dire qu'ils ont tort. Je suis en train de dire que si c'est faux, enfin, s'ils ont juste entendu dire que, ils vont pas hésiter à le mettre en ligne. C'est ça que je suis en train de dire. Après, peut-être qu'ils ont vraiment fait une recherche derrière.
Je suis d'accord, mais en fait,
tu vois ce que je veux dire?
Le gros problème dans les médias, c'est pas ça. Le gros problème dans les médias, c'est que la plupart sont pas indépendants. Pour une fois qu'on a des médias indépendants qui nous sortent des scandales, il faut les lire et il faut comprendre.
Ah bah oui,
c'est
pour ça que je t'ai dit que j'y étais. T'y as été, toi?
Hein?
T'as été voir le scoop?
Mediapart, je lis pas. Moi, je lis Canard. Mais
le concurrent.
J'ai mon afflux de scandales quotidiens, si tu veux. Donc limite, c'est bon. Ça m'entretient dans l'idée que effectivement, ils sont corrompus et qu'il faut arrêter de voter pour eux.
Non, d'accord.
Ok, bon bah là-dessus on va clore le sujet. Nous en tout cas on vous encourage chez vous, si vous êtes chez vous ou dans la rue, si vous êtes enfermé dehors comme Sonéa qui ne vous fera pas sa chronique aujourd'hui, à aller voir donc le site de Mediapart et à nous dire sur la page Facebook de l'émission facebook.com/checklactu, CHECKLACTU, ce que vous en pensez. Voilà, alors nous on revient juste après ça avec les chroniques, on parlera culture, on parlera cinéma, on parlera sport, on parlera orientation. On revient juste après Sango feat Din Turbigo. Oui.
Si je te dis Blackbird, tu dis. Si je te dis Sango, tu dis. Si je dis Turbigo, tu dis. T'as compris? On la refait, gars. Si je te dis Blackbird, tu dis. Si je te dis Sango, tu dis. Din Turbigo, tu dis. Featuring. Bien. Maths et pas du français. J'aime recevoir l'oseille, le compter puis le dépenser.
Le gonfler ton porte-monnaie.
Non, je veux qu'une rue porte mon nom et qu'on m'apporte un nom chaque fois qu'un inconnu m'apporte une.
Ça m'a du clac clac des fesses de tes gogos d'être.
Non, mais quand je clac clac des doigts, je vois mon logo dans le ciel. Je veux nourrir la famille de tous mes ennemis. Leur faire des virements permanents pendant que eux ne touchent que le RMI. Quoi de neuf, hater, donne-moi le rythme de ta soeur. Je vais la mettre bien, je te jure. En plus, ça me fait plaisir, je te l'assure.
Écoute mon discours.
Je sais que tu veux ma peau, mais moi je tiens à te faire un bisou parce que dans ta gogue, mon
discours.
Toi de remplir le frigidaire, tu peux plus dire de nous que dans le rap, on est des petits qui gèrent. On est bien plus vu qu'on met fin à ta carrière. À cause de nous demain, tu voudras retrouver ta vie d'hier.
Même si les gars de ta thèse bougent la tête sur des bootlegs, même si t'es comme ma face, me te claquer sur un coup.
On n'a pas compris ton truc, c'est quoi du rap du bled. Yo, t'as tellement pris dans le but, t'es devenu quadrupède.
Tu demandes des chis sans steak, tu n'as aucune thune. Et t'es la poule, chez le boucher, tu n'as aucune plus.
Tu rêves de tasser de voitures, mais t'as des taxes et des factures. Allez, clique sur nos liens, on laisse des traces et des fractures.
Tu vois des sourcils bronzés, c'est qu'ils s'asident. Monnaie, prends un bout de shit foncé pour des tas de rimes frozen. Ouais, juste artiste, prophète, j'entre dans ta discothèque, liste les parles, dis. Choqué là, ça baxiste, faut faire comme ça que Loco et Colette. Croco et Lorraine restent aux grosses gauves et gaufres. Je suis à propos de cette oseille, même sous un temps radieux. Je pense aux poteaux et problèmes, bien souvent je pense à Dieu. Après un gros code de pollen, merliche, c'est la vie, je ne fais que tricher, ravi. Voir ma côte monter, jaune, sombre, glisse et marine. Ouais, ouais, je compte bien le faire. M'entraîner, gangréner jusqu'au son d'air tiers. Quand je fais les containers, là je suis sur mon terre-terre. Et les gens savent que je compte faire taire. Demande à Taipan, j'ai perdu mon fair play. T'entendras bientôt mon blaze et ce sur toutes les lèvres. Et toi dis-moi, tu vas faire quoi avec ton couple et l'aise. Même si les gars de ta thèse bougent la tête sur des bootlegs. Même si t'es comme ma face, me te claquer sur un coup.
On n'a pas compris ton truc, c'est quoi du rap du bled. Yo, t'as tellement pris dans le pit, t'es devenu quadrupède.
Tu demandes des chis sans steak, tu n'as aucune thune. Et t'es la poule, chez le boucher, tu n'as aucune plus.
Tu rêves de tasser de voitures, mais t'as des taxes et des factures. Allez, clique sur nos liens, on laisse des traces et des fractures.
Traces et fractures, je suis à propos de ça. L'entourage franzin,
Sango. Un message et maintenant on dit quoi? Oui.
Réagissez et retrouvez toutes les infos, toutes les émissions sur le Facebook de Radio VL ainsi que sur Twitter.
Merci à vous d'être restés avec nous. On revient avec ce petit jingle et la régie qui se marre. Du coup, je me marre aussi. Très bien. On va parler donc immédiatement orientation pour ne pas finir donc comme ces gens de la régie qui passent leur journée à appuyer sur des boutons et à déconcentrer les pauvres petits qui enregistrent. Donc vous avez le choix entre ou bien finir comme ça ou bien aller écouter la chronique de Marie qui vous parle orientation.
Check l'actu.
Bonjour à tous, bonjour Gauthier et Elsa qui sont aujourd'hui mes invités.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Donc en fait je pense que les métiers concernant le dessin, la peinture, la sculpture ou encore la mode ne sont pas souvent bien informés. Alors à la sortie du bac, que doit-on faire? Où doit-on aller? Ou enfin tout simplement comment faire? Donc vous faites partie d'une école de design, donc l'ESAM. Qui signifie École supérieure des arts modernes. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un petit peu?
Voilà, donc nous, initialement, donc, nous sommes en cinquième année, et donc dernière année de cette école d'architecture d'intérieur et de design. Donc, c'est une formation post-bac. Donc, après l'obtention du bac, nous sommes tous les deux, Gauthier et moi-même, rentrés dans cette école. Et donc, nous avons suivi les cinq années d'études.
Alors comment on rentre dans l'école? C'est un concours ou tout simplement un entretien avec
Alors pour nous, notre école, c'est sur un entretien et sur un book. Donc c'est Donc notre book, en fait, c'est quelque chose qui nous est personnel. C'est une sorte de grand cahier, de grande pochette où on va répertorier tout ce qui touche à notre création personnelle, nos dessins, des photos, même des vidéos que certains ont pu prendre ou ceux qui font des maquettes, même des découpes des fois dans les magazines.
D'accord.
Donc c'est une sorte de répertoire de toutes nos créations que l'on va, que l'on va présenter devant le directeur ou la directrice de l'école pour laquelle on va essayer d'y rentrer.
C'est un peu un émissaire de votre style, en fait.
Oui, voilà.
C'est un peu votre bouc émissaire.
Voilà, après... Oh,
on applaudit Étienne.
Étienne, il parle pour dire ça.
Elle venait de loin, celle-là.
Après, c'est que les critères d'admission, principalement dans ce genre de formation, c'est non pas sur la qualité du dessin, puisque l'école, peu importe que ce soit la nôtre ou une autre école, publique ou privée, va être là pour apprendre à l'élève à dessiner, à retranscrire ses idées et à pouvoir les exprimer à d'autres personnes. Mais ça demande beaucoup de motivation et c'est un grand investissement personnel. Après, nous, on va en parler donc, pour des jeunes lycéens ou ceux qui vont s'intéresser à leur formation post-bac. Et c'est également des études qui peuvent s'adresser à des personnes qui sont déjà intégrées dans un univers professionnel et qui rechercheraient à se...
C'est génial.
Voilà, et qui rechercheraient à se reconvertir.
Tu peux venir passer un master pro, un truc pour compléter ton parcours déjà existant.
Bien sûr.
D'accord.
Alors, peut-être plus généralement, quels sont les différents secteurs dans une école d'art? Il y a des secteurs, par exemple, urbanisme, graphisme ou... Gauthier.
Donc, de manière générale, il y a le secteur architecture intérieure, il y a le graphisme, mais dans d'autres écoles, il y a le secteur de la mode, il y a l'urbanisme, il y a le design d'objets aussi. Donc, ça reste assez large lorsqu'on veut intégrer une école. Il y a aussi les beaux-arts et les arts décoratifs, en fait, qui font une formation pluridisciplinaire. Donc, vous touchez vraiment à la peinture, à la sculpture, au modelage. Vous n'êtes pas, en fait, enfermé dans une seule ligne droite. Ça qui est bien.
À savoir que, après, cela dépend des écoles où on part initialement sur une année préparatoire, qu'on appelle ça une année découverte. Donc, c'est pour des personnes qui ne connaissent pas les arts appliqués ou qui en ont entendu parler, qui seraient intéressées, qui auraient envie d'en apprendre davantage. Et donc, ça va leur permettre à la fois de leur conseiller dans leur choix, parce qu'elles vont toucher à différentes techniques de dessin, à différents univers aussi, que ce soit l'architecture, le graphisme, enfin, comme disait Gauthier.
D'accord. Et donc, vous aviez parlé tout à l'heure d'écoles publiques ou privées. Déjà, c'est quoi la différence entre ces écoles? Qu'est-ce qui change
Leur différence.
Ouais, c'est ça, à part le prix.
T'as des sous, tu vas en privé. T'as pas de sous, tu vas en public.
Voilà. Il y a aussi leur formation aussi qui est différente. Il y en a qui font des BDS, il y en a qui font des DMA, il y en a qui font des formations en 5 ans, en 6 ans. Ça dépend ce que vous voulez faire. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour s'orienter, soit vers une école publique ou privée. Donc après, c'est sûr que ça peut rebuter les gens de rentrer dans une école privée, puisque ça a un certain coût, c'est vrai. Mais il y a des possibilités, ce qu'on appelle aussi l'alternance. C'est d'avoir un travail en rapport avec son métier et de suivre l'école. Notre école, par exemple, fait l'alternance, et c'est sûr que ça permet à beaucoup d'amis de pouvoir suivre les cours et d'avoir une formation professionnelle à côté.
On a le droit de demander combien ça coûte?
Les prix sont entre 6 000 et 10 000 euros, comme dans toute formation artistique, en fait.
C'est à l'année à chaque fois. Après, les tarifs varient selon ton niveau d'études.
D'accord. Alors, juste pour vous donner quelques noms d'écoles, à Paris, en école publique, il y a l'ENSAD, l'ENSAD, qui est l'École nationale supérieure des arts décoratifs, ou encore en école privée, il y a justement l'ESAM, École supérieure des arts modernes. Et puis en région, il y en a à Toulouse, à Angers, à Lyon, qui peuvent être public ou privé. Mais je sais aussi que vous avez créé une association au sein de votre école. Donc déjà, pourquoi avez-vous voulu créer cette association? Dans quel but
Alors, on a voulu créer cette association déjà pour fédérer les jeunes entre eux, parce qu'on est quand même un réservoir à idées créatives. Et on se disait que ce serait mieux que ça soit partagé entre nous tous que de le faire tout seul dans son coin, un peu au même titre que Radio VL. Donc nous sommes une association de 1901, indépendante.
Attends, mais quel est le but c'est quoi l'association
Vous défendez quoi?
C'est quoi?
Déjà pour définir des questions de création, de projet, de fédérer les jeunes entre eux pour étudier aussi tout ce qui est au niveau de l'orientation, de la santé. On essaye de faire des projets aussi communs.
Et
vous êtes nombreux? Vous êtes nombreux
là-dedans? Vous fédérez des jeunes?
En fait, plus concrètement, l'association intervient dans un premier temps, nous, pour les élèves de notre école.
Ouais.
Par exemple, pour nous aider à rechercher les stages, à nous intégrer après dans le milieu professionnel. acheter des matériaux.
En fait, vous mettez à disposition des informations pour guider d'abord vos élèves et puis aussi ceux qui veulent rentrer dans des écoles d'art, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus.
Exactement.
Et en dehors du cahier ONICEP, quoi. Je veux dire, vous expliquez vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça dans les formations aussi ou...
Au mieux qu'on nous pouvons.
Ah, bah, c'est bien.
Et on est obligé de faire partie de votre école pour intégrer cette association ?
Oui, alors notre association, enfin tous les membres de l'association sont uniquement des étudiants de l'ESAM Design.
D'accord. Bon, bah écoutez, si vous avez envie de faire partie de ces associations qui s'appellent
L'AEE, l'association de l'ESAM Design.
D'accord, bah écoutez, n'hésitez pas, donc si vous êtes branché par le design et que vous avez envie de faire partie de cet asso, à intégrer l'AEE et à passer les concours post-bac. Voilà, voilà. En attendant, on est ravis de vous avoir reçu. On remercie Marie de nous avoir parlé école de design. Si ça vous branche, n'hésitez pas à poser vos questions directement à Marie sur le Facebook de Radio VL, www.facebook.com/radiovl, tout attaché. Nous, on vous parler immédiatement donc de culture avec Farah qui nous parle aujourd'hui d'une pièce de théâtre.
Check l'actu.
Tout à fait, merci Olivia. Bah, je vais vous parler de La Nuit Tombe, donc une pièce de théâtre qui en ce moment passe au Bouffe du Nord jusqu'au 2 février. C'est un texte écrit et mis en scène par Guillaume Vincent. Alors qui est Guillaume Vincent ? Guillaume Vincent est un metteur en scène né en 1977 à Montpellier, qui a notamment participé à beaucoup de mises en scène du TNS, Théâtre National de Strasbourg. Il a mis en 2006 en scène Nous les héros de Jean-Luc Lagarce. Et aujourd'hui, il écrit donc pour le théâtre des Bouffes du Nord en partenariat avec La Colline, pour ce spectacle qui s'appelle La Nuit Tombe. Alors, cette histoire raconte l'histoire de plusieurs personnes dans un monde à la fois fantastique qui amène aussi un univers du film d'horreur. Vous vous retrouvez face à un décor assez somptueux, décor qui reste celui d'une chambre d'hôtel, à la fois colorée et sombre par moments. La pièce, en fait, raconte cette histoire d'un jeune homme qui arrive sur scène et qui dit que la chambre d'hôtel est tentée par des fantômes. Donc on ne sait pas très bien ce qui se passe, on ne sait pas très bien pourquoi les portes claquent, pourquoi des gens, des voix passent dans cette chambre d'hôtel et c'est, il y a des effets assez spectaculaires, comme par exemple sur scène on voit de l'eau qui vient inonder le plateau, ce qui est assez rare quand même au théâtre, c'est plutôt des effets qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Il y a un voile même qui est devant la scène entre le spectateur et le spectacle, voile sur lequel est projeté les sous-titres, puisqu'on entend à la fois du français, de l'anglais, de l'italien et du russe. Donc on a l'impression de voir ces sous-titres flotter un petit peu dans l'atmosphère, ce qui donne aussi à cette ambiance un petit peu d'horreur une dimension très spéciale. On a des images qui s'enchaînent et qui se révèlent dessinées à la perfection dans ce décor aux allures de manoir hanté ou parfois même de palais en chanter. Je vous laisse donc découvrir cette scène de théâtre écrite par Guillaume Vincent et mise en scène au Théâtre des Bouffes du Nord. Donc vous avez jusqu'au 2 février pour le découvrir.
Génial, et tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu.
T'en as pensé quoi, toi ? Bah, on imagine que t'as beaucoup aimé vu que tu nous l'as décrit.
Oui, oui, oui. Bah, j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais qu'il a porter un peu ce côté cinéma au théâtre qui rend les choses très réelles et donc qui peut faire aimer un jeune public.
C'est vrai qu'il y a des effets spéciaux, je vais beaucoup au théâtre, mais j'ai jamais vu.
Il y a un côté très moderne.
Ouais,
mais qui reste...
L'eau, ça a l'air sympa quand même.
Ah oui, alors on voit cette eau qui sort de sous la porte, qui vient inonder la scène, on se demande même comment il a fait pour ne pas inonder les spectateurs en même temps, mais c'est très très bien fait.
Il doit mettre tant d'eau pour pas que
mais
ça arrive là.
Mais ça sèche vite, enfin, j'ai une question c'est pratique, dingue, mais ils font comment
Eh bien écoute, je ne saurais pas dire, je pense que c'est des effets très recherchés, puisqu'il n'y avait pas d'eau sur les spectateurs qui étaient pourtant devant la scène. Et puis il faut dire que
t'es sûr que
le
c'est
théâtre
pas
des Bouffes du Nord est un théâtre très très beau.
T'as jamais eu ce problème en CM2, une baignoire se remplit de
mais j'ai jamais réussi à le résoudre.
Ouais. Ils ont réussi à pas.
On cherche encore.
La 11e fois mon CM2, faut pas trop me demander. Hein.
Mais je vous le conseille vraiment, surtout pour un jeune public qui n'a pas l'habitude d'aller au théâtre, ça ressemble presque à un film de ciné, donc ça peut lui plaire.
D'accord, voilà. Bon, en tout cas merci Farah de nous en avoir parlé et tu m'as donné envie d'aller le voir donc
merci
Olivia.
Bah, on ira peut-être tous ensemble, grande sortie de Check Lecture.
Allez,
si
hop.
Vous voulez nous rejoindre, bah, n'hésitez pas à nous le dire sur le Facebook toujours de l'émission. Enfin,
une grande troupe.
Ouais, c'est grand, parle, grande troupe, grand c'est événement.
7000 personnes qui vont y aller.
On va privatiser ce truc, attends, ça va être génial. Bah, puisqu'on parle des effets spéciaux, je propose qu'on enchaîne avec du cinéma et qu'on parle cinéma avec Étienne. Tu nous parles d'un film dans lequel il y a des effets spéciaux aujourd'hui ou pas du tout ?
Il y a des effets spéciaux dans ce film, effectivement, Olivia.
Puisque tu nous parles de...
Puisque je vais vous parler de mon film préféré de 2012, qui...
Vas-y, je t'en prie.
...est Le Territoire des Loups.
Le Territoire des Loups.
De Joe Carnahan. Est-ce que tu l'as vu ?
Non.
Dit-il en s'adressant à Benjamin d'une façon qui n'est pas du tout radiophonique.
Ouais. Il le montre du droit. Hein,
exactement. Pour, Est-ce que tu l'as vu, toi, là-bas?
On va faire les descriptions de ce qui se passe sur le plateau.
Alors là, Étienne tourne un peu la tête.
Benjamin.
S'exclama-t-il.
Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu m'as demandé si je l'avais vu? Voilà.
T'as pas vu Forrest Gump? Je vois pas comment t'aurais pu voir ce film.
Mais arrêtez de me discriminer comme ça, si ça se trouve, j'ai vu.
Quoi?
Quoi? De quoi ce dialogue des sourds?
Et donc, le territoire des loups, pourquoi est-ce que... Mais parce que la question se pose quand même un peu. Pourquoi est-ce que c'est mon film préféré de 2012? Eh bien, tout simplement parce que c'est un super film dont le scénario...
Ça nous engage.
Ça, c'est de l'argument. Pourquoi est-ce que c'est mon film préféré? Parce que
c'est
un super film.
C'est un super film.
Pas du tout subjectif.
Ouais, c'est, non, mais c'est complètement subjectif.
À chaque fois, il dit c'est le meilleur.
Non, mais je vais être le seul à le défendre.
Allez, vas-y, on compte la
suite. T'as aimé ce film ou pas avant qu'il...
Mais je l'ai pas vu, moi.
Tu l'as pas vu? Bon, d'accord, donc on considère que t'as pas aimé.
Voilà, je suis vraiment tout seul. Bon, le pitch, c'est très simple. C'est une bande de mecs qui bossent dans une raffinerie en Alaska. Donc très froid, les loups, tout ça. Et ils prennent un avion, ils se crashent en plein milieu du...
C'est avec Liam Neeson?
Mais bien sûr.
Ah, mais d'accord, très bien. Je vois très bien de quoi on parle.
Pourquoi ils prennent un avion?
Ils prennent un avion pour rentrer chez eux.
D'accord.
Parce que quand ils bossent, mais après ils retournent voir la famille quand même, pour ceux qui en ont. Et donc c'est tous un peu des mecs à la dérive, tout ça, qui plongent un peu leur désespoir dans l'alcool et la solitude. Et ils se crashent. Et donc ils se retrouvent en plein milieu de la nature sauvage, attaqués par des loups, et ils doivent survivre.
Ça me dit quelque chose, ça.
Ouais.
Oui, c'est sorti début d'année, début d'année dernière.
J'ai vu.
Film, donc c'est le rôle principal, c'est Liam Neeson qui joue un peu le mec qui a de l'expérience un peu là-dedans. Je savais que j'aurais au moins un argument. Pour
là,
vous.
Là, on peut décrire ce qui se passe sur le plateau ou pas?
Ça provoque chez la gente.
Il y a une sorte d'hystérie bizarre féminine.
Il y a eu un frémissement là.
Vous les auriez vues, elles ont bondi de leur chaise.
Elle commence à rougir, il y a des petits cris comme ça.
Pas du tout.
C'est dégueulasse.
Marie et moi, on se comprend, vous comprenez rien. Ouais.
C'est un film qui se base sur les codes du survival. Le survival, qu'est-ce que c'est? C'est un genre cinématographique qui sous-entend qu'il y a une menace qui vient de la nature ou qui est dans la nature qui pèse sur un groupe ou un seul homme et ils vont devoir creuser au fin fond d'eux-mêmes pour essayer de survivre ou non à cette menace.
Ils vont pas creuser au fin fond de même pour essayer de ne pas survivre.
Bah si, ils prennent un râteau.
Ils vont creuser pour essayer de survivre.
Non, ils vont creuser pour essayer de survivre, mais ça se trouve ça ne va pas fonctionner, c'est ce que je veux dire.
Oui, mais c'est pas ce que veut dire ta phrase.
Oui, je sais.
Bim, comment je t'ai eu après?
C'est difficile. Hein,
Non, depuis le début de l'année, je cherche.
C'est un film qui c'est un genre qui est effectivement très codé, mais pourquoi est-ce que c'est mon film préféré et c'est pas les 50 000 autres qui sont régis par les mêmes codes? Parce que ce film-là, il transcende ses codes en amenant finalement entre mis à part le scénario, par les images, par le découpage et par finalement le cadre, il va évoquer beaucoup plus de choses que juste une histoire de survie. Il va vraiment, en fait, Joe Carnahan, c'est un mec qui avait déjà fait pour ceux qui l'ont vu Narc, Mise à prix, Smoking Aces. Non, personne.
Tu parles tout seul. Et tu...
Donc c'est un mec qui se pose beaucoup de questions sur le cinéma. Et par exemple dans Smoking Aces, il y avait un personnage qui était un second rôle et qui pendant tout le début du film n'avait pas trop d'importance, genre bras droit du méchant.
Ouais.
Et d'un coup d'un seul, en une scène, boum, il commence à parler. Et là, il prend une puissance, une profondeur. Et c'est un peu la même chose dans Le Territoire des Loups, The Grey. Le film est en anglais, ça s'appelle The Grey. Et là-dedans, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il va vraiment au bout des choses. Quand quelqu'un meurt, c'est pas juste un mort comme ça, quoi. C'est vraiment une expérience presque traumatisante.
D'accord.
Et c'est comme ça pour tout. Et donc ce héros, Liam Neeson, qui joue merveilleusement bien dans ce film. Et franchement, rien que pour lui, allez le voir, les filles, si ça vous tente. Mais en gros, voilà, ce personnage-là, il a vraiment un charisme, une profondeur. Et c'est un mec qui est pas comme vous et moi. C'est un mec qui a la dérive, qui effectivement a pas la même vision des choses que nous. Et il ne nous assène pas en nous disant « Oui, vous devez penser ça, vous devez penser ci. » Non, il dit « Moi, je vois les choses comme ça. Oui, toi, tu vas crever, je te le dis, voilà, c'est comme ça. » Et c'est très, très dur comme film et c'est ultra puissant. Et c'est pour ça que j'ai adoré ça, parce que vraiment, et une mise en scène assez formidable.
D'accord. Bah,
j'ai été assez rapide.
C'est quoi cette conclusion?
Passionné.
Parce que j'ai peur de dépasser toujours.
Non, il est trop passionné.
Je
ne vais
pas dépasser. C'est, en tout cas, je sais pas si j'irai le voir. Mais
de toute façon, il est plus au cinéma.
Il l'a pas convaincu.
C'est pas que tu m'as pas convaincu. C'est que j'aime pas trop ce genre de film.
The Grey, Le Territoire des Loups.
Mais t'aimes quel genre de film? Comment tu peux savoir?
que j'aime et comment je peux savoir que j'aime pas un certain genre de film?
Bah oui.
Non mais alors la question c'est plutôt quel survival est-ce que t'as vu?
L'habitude.
Alors j'en ai vu un dont je sais plus comment il s'appelle et je sais plus qui je vais être dedans, mais j'ai bien aimé.
Tu te rappelles de l'histoire ou pas?
Ridicule.
Non plus.
Non.
Elle s'est fait piéger.
Non, mais si j'en ai vu. Si, si, déjà j'ai vu 2012. Pas 2012,
c'est
le
pas
jour
un
d'après.
Le jour d'après.
Le jour d'après. Si, si, c'est pas un survival le jour d'après.
Si, il est bien.
Non, mais excusez-moi, le jour d'après, c'est un film documentaire.
Moi, des survival, j'en regarde pas.
Un documentaire,
oui, c'est mieux.
Wow. Ben oui.
Oula,
c'est
une phrase philosophique, ça. J'ai envie de préciser.
Je t'ai dit des survival, j'en regarde pas, j'en vis. Bim.
Tu surviens un peu à ta vie, quoi.
Bim.
Oui, exactement.
Belle transition pour annoncer la prochaine chronique. J'ai...
Non, belle transition pour annoncer One Day de Asaf Avidan, qu'on va vous passer tout de suite.
Et bim.
Et bim. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.
Rester avec nous pendant cette chanson fort sympathique à mon avis. Cette transition était pourrie, mais ça me permet donc d'annoncer un truc beaucoup moins pourri et qui pour le coup est même carrément sympathique, c'est Option Média.
Oui.
Avec Nicolas.
Check l'actu.
De quoi on parle aujourd'hui avec toi?
Eh bien, pour cette première de l'option média dans Check l'Actu, je vais vous parler d'une chaîne qui commence à prendre un sacré coup de vieux. Et oui, la troisième touche de votre télécommande vient de fêter ses 40 ans. Tout commence le 31 décembre 72 quand les téléspectateurs découvrent l'arrivée de ce qui s'appelait à l'époque la troisième chaîne couleur de l'ORTF. Oui, à l'époque, il fallait préciser en couleur pour faire moderne. Hein. C'est un peu comme si aujourd'hui on disait télé 3D. Alors appelée France 3 depuis le 7 septembre 92, la chaîne est pour les plus anciens comme pour les plus jeunes une multitude de souvenirs qui se bousculent dans notre tête avec ses visages familiers, journalistes ou animateurs aimés ou détestés, disparus pour certains avec quelques rides pour d'autres ou des kilos en trop. Et pour célébrer cet anniversaire, la chaîne diffuse à son public depuis le 5 janvier jusqu'à demain 6 programmes courts coproduits par l'INA, qui je rappelle c'est l'Institut National de l'Audiovisuel, sur 40 ans d'émissions cultes pour illustrer le slogan France 3 40 ans que vous êtes au bon endroit. Alors cela permet de voir ou revoir les émissions cultes de la 3 et revivre les débuts de Michel Field et Henri Sagné en 73, de Pierre Desproges, ouais, ça donne envie. De
ils
Pierre
ont été jeunes
avant qu'ils
ils
ne deviennent
des jeunes, ouais.
Même Michel Field.
Même ouais, il paraît qu'il avait même pas les cheveux blancs. Ouais,
je crois pas.
Et de Pierre Desproges en 82, de Laurent Ruquier en 96, ou encore d'Evelyne Thomas qui n'existe plus, hein, en 92.
Non, mais c'est vrai que la vraie Evelyne Thomas n'existe plus. C'est une version retravaillée de l'Evelyne Thomas.
C'est plus son choix.
Exactement.
Également,
celui de son chirurgien.
Également, 6 clips de téléspectateurs pour souhaiter un joyeux anniversaire à la chaîne avec des témoignages intergénérationnels d'hommes et de femmes, un quiz spécial anniversaire sur le site France3.fr, leur Facebook ou Twitter avec des questions sur l'histoire de la chaîne de ses débuts à nos jours, des surprises au sein même des programmes actuels diffusés à l'antenne. Alors précipitez-vous hein, si vous nous écoutez, ou bien je pense que des replays doivent être disponibles sur leur site. Mais pour nous, jeune génération, j'aimerais faire un petit point sur un programme que nous connaissons forcément tous, ce sont les Minicums.
Ah oui.
Alors ça retrace un peu toute notre enfance. Ah, je vous imagine quand même autour de...
Ah, j'aimais bien les Minicums.
C'était génial.
Les Minicums.
C'était ouais, parce génial. Que vous, Nicolas qui tourne le dos et les téléspectateurs n'ont pas vu les airs dubitatifs de nos deux cinématographes.
Mais c'était génial,
ouais,
c'était
bien. C'était putain.
Enfin, je vous imagine quand même hein, tous croustillés devant ce programme quand vous étiez petit avec votre bol de céréales.
Ceux qui avaient l'exclusivité de Batman et c'était le meilleur dessin animé.
Ah ouais, la version clairement. 98,
ouais, d'accord.
C'était génial,
clairement.
Détective Conan et Lady Oscar étaient quand même mieux.
Bon, ok, donnez-moi un saut pour que je vomisse.
Donc, ce programme qui a été diffusé du 31 mars 93 au 1er avril 2002, c'était pas une blague, hein, ça a vraiment arrêté le 1er avril 2002, à ces marionnettes qui présentaient leurs clips, des sketchs. Il faut dire que France 3 n'a jamais su refaire un programme aussi bien pour les enfants à l'heure actuelle. Alors je sais pas vous, moi, mais j'ai vraiment été atteint par la Minicums attitude, ça c'est clair. Et d'ailleurs, ce programme parlait déjà d'une personne qui fait polémique toujours en ce moment, et dont nous en avons encore parlé la semaine dernière dans cette émission, c'est la marionnette de Gérard Depardieu, alias GG, dans l'émission, qui était d'ailleurs souvent duo avec Antoine Decaune, alias Coco. Donc c'était vraiment des visionnaires, ces Minicums. Donc bon anniversaire à France 3, voilà ce qu'on voulait dire sur les 40 ans.
Comme quoi on peut comprendre des trucs 10 ans plus tard.
Mais oui, ça y est, fallait regarder les Minicums pour comprendre qu'il allait se barrer de la France.
Et aller en Russie.
Voilà.
Et que Batman va venir le rechercher.
Voilà,
t'as le foot devant le commissariat.
Tu comprends trop de choses, ça m'énerve.
Bah voilà, bah merci Nicolas en tout cas d'avoir remis les choses au clair et de nous avoir montré que bah déjà 10 ans avant on savait que Gérard Depardieu allait
partir,
et qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un plat aujourd'hui.
Tout un plat parce que c'était les Minicums après tout.
Bah voilà, bah merci en attendant, c'était la première d'Option Média et c'est fort sympathique, donc tu reviens la semaine prochaine.
Oui.
Génial.
Oui. Oh le silence.
Il a fait
quoi,
les voix pour les
Minicums attitude là, ouais, oui. Laissez-le tranquille. Enfin bon, on va passer du coup à un truc qui fait un peu moins Minicums attitude, vu que je ne l'ai jamais vu les Minicums faire du sport, et pourtant Dieu sait que j'ai regardé les Minicums.
Ils n'avaient pas de jambes.
En 98, il y a eu Zidou chez les Minicums, et c'était la marionnette de Zidane. Donc,
mais il n'avait pas de jambes.
Demande-moi quand tu te poses des questions sur les Minicums. Bah, bien sûr.
Bah, tu remets en question ma connaissance des Minicums.
Bah la preuve.
On fera un concours si tu veux.
J'ai
je
lancé un débat.
Les chansons par cœur. Sans parole. Je te le fais, mais comme tu veux.
Mais par contre, question, vous avez quel âge vous tous? Parce que moi, je sais que j'ai pas regardé longtemps les Minicums. Hein.
Bah, j'ai 45 ans.
Ça a été diffusé de 93 à 2002.
Ah ouais,
tu vois, t'as quel âge? T'as 14 ans?
Mais je t'adresse à beaucoup de gens qui ont 14 ans. Donc je te préviens, ne te moque pas des gens de 14 ans. Okay,
je parlais à toi. Là.
Non, et ouais, non, je sais pas, j'ai 20 ans.
C'est génial que t'en
parles. Ah ouais. Mais bah je me souviens surtout de Batman en fait. Moi, c'était quand même le mieux dans les mini.
Ils avaient l'exclusivité de Batman.
Et moi, c'est les minicums qui m'ont fait aimer la langue française. Parce que dans une de leurs chansons, ils disaient pas de rimmel, c'est ma hantise. J'ai peur que ça coule sur ma chemise. Et du coup, bah.
Olivia, son nouveau single.
Mais attends, non, c'est les minicums.
Tu veux dire qu'ils ont fait rimer, rimmel et cool. Et toi, t'as dit youpla quoi.
Tu sais que toutes les chansons ont des mots.
Oui, mais c'est tu sais, il y a
non, parce que c'était des vers comme ça, tu vois. C'est pas parce que la phrase de la chanson, d'accord, ça rime pas.
Je suis désolée,
mais les minicums, c'était quand même des grands poètes. Et voilà. Je sais plus pourquoi. Pourquoi je disais ça
pour oui, lancer Benjamin, je crois.
Mais oui.
Ouais,
oui, parce que ma première transition, vous me l'avez pourrie du coup, mais c'était les minicums qui n'ont jamais fait de sport.
Là, sur le coup, on n'a rien fait.
Les minicums n'ont jamais fait de sport. C'est parti sur Zidou. Après, c'est parti sur connaissance de trucs. Mais je ne sais pas.
Mais si factuellement, il y a un problème. Oula. Si, ouais, si, un problème factuel dans ta transition, c'est pas notre faute. Hein.
D'accord, entendu. Merci Étienne pour ton soutien incommensurable et à toute épreuve. Du coup, en parlant de soutien incommensurable et à toute épreuve, c'est le soutien que se portent les joueurs de grandes équipes entre eux. Allez hop, transition foireuse, c'est parti. Parlons des sports avec Benjamin.
Alors, je vais vous parler de sport et plus particulièrement de football, parce que lundi, c'était la remise du Ballon d'Or 2012.
Ouais.
Donc, je pouvais pas passer à côté.
Ah.
C'est tu t'as dit, c'est qui?
Oui.
Bah, d'accord. Tu
sais non, je sais. Ah. C'est le mec qui a un nom serbe.
Mais non.
C'est Zlatan.
Oh là là, mais c'est une catastrophe.
Non, mais c'est Messi, c'est ça.
Mais moi je sais.
Ah non, apparemment, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est qui?
Non, c'est Lionel Messi.
Mais je viens de le dire.
Bah voilà,
personne m'écoute dans cette émission.
Mais t'aurais dû le dire.
Mais je l'ai dit. Je disais mais pour l'aider.
Bah
mais
non.
Tu comprendras mes indices maintenant.
Messi qui a gagné avec 41,6% des voix. Et le deuxième, Cristiano Ronaldo, le mec gominé portugais, a gagné. Alors, qui est-ce qui vote? À la base, depuis 56, le Ballon d'Or existe. Et à la base, c'était un collège de votants exclusivement journalistique. Parce qu'il partait du principe qu'il n'y avait que les journalistes qui regardaient absolument tous les matchs et qui étaient le plus objectif à même de voir tout ça.
Ah, parce qu'il n'y a pas de sélection avant
Si, il y a 25, je crois qu'il y a 25 pré, il y a une pré-sélection de 25 et après ils en choisissent 3 dedans. Mais depuis quelques temps, je ne sais plus exactement quand, maintenant il y a les...
Depuis qu'il y a assez de chômage pour que les gens regardent tous les matchs.
Ouais, exactement. Maintenant il y a les entraîneurs et les journalistes et les capitaines de sélection qui votent.
Ah, donc c'est toujours pas le mec lambda.
Et donc
en fait.
Non, c'est pas le mec lambda. Et donc voilà, donc le deuxième, Cristiano Ronaldo, est arrivé avec un pourcentage de 23,68%, et Iniesta, l'Espagnol, est arrivé avec 10,91%. Il y a une énorme polémique qui a enflé, c'est qu'en fait, Messi n'a gagné qu'une Coupe du Roi cette année, contrairement à Cristiano Ronaldo qui a gagné le championnat d'Espagne, et Iniesta qui a gagné la Coupe d'Europe et la Coupe du Roi aussi. Et je vais y arriver. Hein.
Il faudrait que tu te concentres un peu,
Benjamin. Bien sûr que je me concentre.
Attends, si vous voyez ce qu'on est en train de faire à côté, en train de manger des bonbons.
Voilà.
Donc,
les gens se sont dit ouais, Messi, c'est bien, il est fort et tout, très bien, mais il a pas gagné de titre majeur cette année, et donc c'est un peu abusé tout ça de lui filer à lui.
Et il a eu 91 buts, je crois, dans l'année.
Alors voilà, premièrement, il a eu 91 buts dans l'année. Donc pour moi, ça gomme tout le reste. C'est un truc incroyable, genre pour.
Ça c'est jamais arrivé, je crois.
Bah c'est non, c'est jamais arrivé.
C'est jamais arrivé.
C'est jamais arrivé. Et en France, par exemple, on a quand quelqu'un met 20 ou 40 buts dans l'année en tout, c'est quand même un exploit. Lui, il en met 91.
D'accord.
En fait, je suis allé me renseigner parce que, alors, beaucoup de gens disaient soit oui, il a mis 91 buts, c'est incroyable, il faut lui donner le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur du monde. Mmh. Et d'autres disaient oui, peut-être que c'est le meilleur, mais il a pas gagné de titre majeur collectivement, donc il faut lui, c'est pas à lui qu'il faut le filer. Et je suis allé voir en fait dans le règlement du Ballon d'Or, et l'article 9 notamment désigne en fait à qui il faut le donner ce trophée. Et il y a 4 points, donc le petit A, c'est l'ensemble, pour l'ensemble des performances individuelles et collectives pendant l'année considérée. Le petit B, c'est pour la classe du joueur. Pour le C, c'est pour sa carrière. Et pour le D, c'est pour sa personnalité et son rayonnement.
Donc en gros, il le
sa
mérite.
Sa personnalité
quoi.
Et son rayonnement.
Exactement.
Et comment il y a des critères objectifs pour.
Ouais, non, mais pour sa carrière, moi je dis.
Bah, bien sûr, puisque en fait, dans une équipe de 11 joueurs, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, comme ici, si tu veux, t'as des. c'est t'as des gens qui sont qui ont une un aura ou un charisme particulier et qui transposent, qui transportent ses équipiers ou ses partenaires ou ses collègues ou ce que tu veux, et donc ouais. C'est ça sa personnalité. Donc en fait le problème c'est que ça, cet article, bon, il, si on prend les points un par un, il lui file pas le ballon d'or à lui, parce que c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de d'un peu en retrait, qui fait pas beaucoup de vagues.
La gentillesse ne paye jamais.
À Ronaldo, quoi ?
La gentillesse ne paye jamais, c'est ce que t'es en train de dire.
Ça. Bah la preuve que si, il a eu le ballon d'or.
Mais toi, t'es content que ce soit lui ?
Moi, je suis extrêmement content parce qu'à un moment donné, en fait,
c'est gentil.
Comment ?
On prend rien.
Il l'a eu le ballon d'or, c'est ça la polémique.
Mais oui, mais tu m'as pas, tu m'écoutes ou pas ? Mais oui, je t'écoute.
Mais bien sûr qu'il l'a eu, il est, c'est fait, on va pas lui reprendre.
Oui, bon,
mais il y a polémique.
Mais il y a polémique, c'est ça l'idée.
D'accord.
Et donc je voulais balayer cette polémique.
Oui, mais il y a polémique parce qu'il est gentil. Non, j'ai pas compris ce que t'as dit.
Il y a polémique
j'ai
parce que.
Il y a polémique parce qu'il y a des gens qui disent oui, il est gentil donc il a pas un charisme machin.
Parce qu'il est bien individuellement, mais
apparemment... dans les 4 points en fait de l'article 9 du Ballon d'Or, il y a le fait que le D c'est la personnalité et le rayonnement. Et je disais juste que peut-être que pour ce point-là.
Ça
posait problème parce que c'est quelqu'un qui fait pas de vagues, qui D'accord. a une modestie extraordinaire. C'est quand même son 4e ballon d'or d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé. Et
ça serait pas mal, ça, justement.
Le meilleur joueur de tous les temps.
Que sa modestie rayonne.
Voilà, exactement.
Non, moi, c'est surtout les 88.
Oui, ouais,
ça n'est jamais arrivé, ça, 88.
Oui, mais il y a des gens qui mettent les stars mondiales, c'est Maradona, c'est des gens qui sont choqués, qui sont.
C'est leur problème, c'est juste qu'ils ne sont pas contents parce qu'on lui a donné.
Défends-toi, vas-y.
Ah, mais je suis
assassiné. Je me fais le porte-parole.
Est-ce que ça se traduit par une énorme augmentation de salaire d'avoir le ballon d'or?
Est-ce que c'est possible d'avoir une énorme augmentation de salaire quand t'as déjà le salaire de Lionel Messi?
Ne reparlez pas de salaire. Oui. Parce que
le salaire de Lionel Messi est de 16 millions par an.
Oui, donc c'est pas possible d'avoir une énorme.
Non, parce que gagne bien.
Non, franchement, 16 millions, c'est rien.
Il gagne trop, les footballeurs, je le répète encore. Et toi, tu me regardes, Etienne, oui. Mais il gagne trop.
Bah, en fait, ça déborde de mon sujet, mais parallèlement au fait qu'ils font gagner beaucoup, ça revient au même, quoi. Enfin, c'est pas le même monde, les amis, donc je suis désolé de vous.
Non, mais en fait, semaine dernière, on avait eu un débat sur les salaires Etienne. Des footballeurs, on en parle, ok, mais les salaires des stars de cinéma, c'est la même chose. Donc on faisait référence à ça. Mais je t'en prie, enchaîne, cher ami.
Bah, c'est intéressant, justement, parce que c'est dommage, puisque j'avais ma chronique de la deuxième, mais qui ne viendra pas, de ma deuxième émission. C'était le fait que pourquoi on tapait sur les footballeurs et pas sur les stars de ciné ou
mais ça y est, ils ont tapé sur les stars de ciné.
Oui, enfin, c'est la première fois, alors que les footballeurs, on les a depuis deux ans, c'est-à-dire en 2010, Nice-Na, et il y a eu plein d'autres trucs avant. J'expliquais tout ça, mais ça sera pour.
Moi, j'ai une question.
Pour une prochaine fois. Vas-y, et je finirai après.
On m'a parlé on m'a fait remarquer qu'effectivement, le football, c'était quand même un sport où ça se finissait souvent par 0-0. Pourquoi est-ce qu'on met pas plus de joueurs dans les équipes?
Mais c'est
ça
n'a aucun sens.
Non, mais c'est bizarre en gros de se dire qu'en fait on regarde 90 minutes un match et il y a un score.
T'as déjà eu zéro à l'école, toi?
Ouais.
Ouais, bah pourquoi tu l'as fait le devoir alors?
Bah, disons que j'invite pas 80 000 personnes dans un stade pour me voir faire des contrôles.
Alors écoutez, on expliquera les règles du foot à Étienne à l'émission prochaine. en revanche, là je vous propose avant de clôturer l'émission qu'on vous présente les deux personnes qui seront justement là pour expliquer avec nous les règles du foot à Étienne lors de la prochaine émission, vu qu'on aura deux autres chroniqueurs. On aura effectivement une chronique un peu billet d'humeur avec Ahmed, on te dit bonjour. Bonjour, micro. Parle dans ton micro, s'il te plaît. Je t'entends pas. Est-ce que c'est normal? On t'entend? Le micro est allumé?
Moi,
hop.
J'entends.
Est-ce qu'on peut. Hop. Est-ce qu'il est. Est-ce que. Bon, alors on va te demander de parler là-dedans si ça
c'est
t'embête
bon.
Pas.
Okay.
Oui,
c'est bon.
C'est bon? Non, le micro remarche. Génial.
Ouais, toute une histoire
super,
de micro.
Exactement. Okay, parle d'accord. bien dedans. Donc, Ahmed, donc toi, tu es en stage ici pour 3 mois.
Ouais,
et
exactement.
Donc, ces 3 mois pendant lesquels tu vas nous faire profiter d'une petite chronique qui va parler de quoi?
Là, bah, aujourd'hui, je vais vous parler d'une exposition que j'ai fait cette semaine.
D'accord.
J'ai visité. C'est au-delà du street art.
Ok.
Et c'est au musée de la Poste. Il s'appelle l'adresse sur le boulevard de Vaugirard.
D'accord,
et j'ai
bah
pris énormément de plaisir à la visiter.
Entendu, donc on finira là-dessus avec toi tout à l'heure. En attendant, je propose qu'on vous présente également François. François, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, donc avec toi on parlera de quoi donc, pour les prochaines semaines?
On parlera plutôt musique actuelle, musique folk, un petit peu de tout quoi.
D'accord, comment tu crânes avec sa voix grave ou pas. Mais il laisse le tranquille, arrête d'être jaloux là.
Non, il a une voix d'artiste, moi j'aime bien. Une voix d'artiste, je sais pas, il y a quelque chose.
Bon, une voix d'artiste, ouais. Très bien. François, donc avec ta voix d'artiste, tu nous chanteras des chansons ou pas du tout?
Non, je pense pas, non. Peut-être avec mes compagnons, pourquoi pas, mais moi non.
Oui, on, tout
on
seul.
Va chanter,
on va chanter.
On va tous chanter,
on va tous chanter ensemble. J'entends
des chansons paillardes.
Ou pas, plutôt pas que ou d'ailleurs. En attendant, bah écoute, c'est avec hâte qu'on. Non, ma phrase ne veut rien dire. On a hâte de te retrouver la semaine prochaine, c'est plutôt ça que je voulais dire. Et donc en attendant, on va finir sur. Donc avec Ahmed sur Culture, Exposition, La Poste.
Voilà, donc je disais que j'ai visité dans la semaine cette exposition au-delà du street art. Donc je suppose que vous savez à peu près ce que c'est. Le street art, c'est une forme d'expression où on a beaucoup d'artistes en France qui s'expriment, qui contestent énormément certaines irrégularités de la société. Mmh. Et on a même ça à l'étranger, comme un artiste comme Banksy.
Ah, en fan France. De Banksy, ouais. Absolument fan de Banksy.
Voilà, de Banksy. On a
Mystique.
On a Mystique en France, qui est une des pionnières de ce mouvement. Et la personne que j'ai rencontrée, la commissaire de l'exposition, Céline Neveu, avec qui j'ai passé un agréable entretien, a réuni 11 personnes, vraiment 11 artistes phares de ce mouvement. Et quand vous faites le tour de l'expo, vous avez de la photo, de la vidéo. Il y a même 6 artistes sur les 11 qui ont accepté de carrément créer une œuvre pour l'exposition. Et voilà,
oui, parce que ça faisait partie des questions que je voulais te poser. C'est du street art. Comment est-ce qu'on l'a amené à l'exposition? Donc, ils ont fait des œuvres exprès pour l'exposition qui représentaient ce qu'ils donnent,
voilà,
en général.
En fait,
d'accord.
Par
très
exemple,
bien.
Vous connaissez le jeu Space Invader?
Absolument. Ouais, ouais, voilà. Donc, ouais. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer?
Pour rester dans la génération minicams.
C'est bien avant les minicams.
En plus.
Voilà, donc l'artiste Invader, par exemple, il est énormément connu. Il fait ses tableaux à partir de Rubik's Cube. Ça, voilà, c'est les céramiques. Vous voyez les petits cadres de céramique sur les bâtiments, voilà,
qui représentent les petits fantômes du jeu Space Invaders.
Oui, mais il y a pas de plus en plus. Enfin, moi, je sais que à côté de ma prépa, il y avait un petit Mario justement dessiné comme ça.
Oui, il en fait. Oui,
il en fait aussi. Ouais, il en fait aussi.
C'est lui. Le truc, c'est que c'est pareil. C'est un artiste français qui a un rayonnement mondial et en France, personne le connaît, quoi.
Mais tu t'avais mis une photo justement.
Ouais.
Mais Space Invader, il est pas français.
Si, il a fait les Beaux-Arts, bien sûr.
Comme C215 ou alors Mystique, comme je disais tout à l'heure, Mystique, ce qu'elle fait, c'est la technique du pochoir, en fait, c'est-à-dire qu'elle travaille avant de poser sur les murs. C'est du papier, et puis dès qu'elle vient sur un mur, elle graffe ça directement, elle le colle, et puis une fois qu'elle enlève l'imprimé, ça, c'est automatiquement sur le mur, et elle laisse une phrase vraiment poétique. Par exemple, il y a un de ses tableaux qui est fameux, je suis la voyelle du mot voyou.
Ouais,
voilà, c'est
génial.
Voilà, elle a été reprise par plusieurs artistes dans le hip-hop. Voilà, tout le monde s'inspire de tout le monde. Et
c'est une artiste du 13e arrondissement, d'ailleurs. Il y a beaucoup de tags d'elle là-bas.
Exactement.
Et elle vient les changer de temps en temps, les pochoirs. On peut la rencontrer, la voir dans le 13e.
Exactement. Et pour aller voir cette expo, on fait comment? C'est où?
C'est jusqu'au 30 mars.
Au
musée de l'adresse. Voilà,
d'accord.
4 boulevard Montparnasse.
Et est-ce qu'il y avait Monsieur Chat?
Qui sait quelle adresse?
Il y a Monsieur Chat ou pas?
Non, du tout. Non, non.
Parce là, que c'est des grosses pointures. Il y a chez Parferret, apparemment.
Bah, Monsieur Chat, c'est vous voyez pas les énormes chats jaunes qu'il y a des
avec
fois
des ailes
exactement avec des ailes.
Bien sûr.
Et en fait, vu que je suis orléanais et qu'il vient d'Orléans, et ben à Orléans, tout le monde connaît Monsieur Chat
fierté,
et c'est un peu
nationale.
Voilà, c'est une grosse fierté. Et voilà, il avait commencé à Orléans et maintenant il est à Paris et on voit des gros chats avec des ailes, un gros chat jaune.
Wow,
sur les murs.
D'ailleurs, sur la place Montparnasse, il me semble qu'il y en a un
le premier, mais il y en a un autre qui arrive.
En fait, c'est un mix entre ancienne génération, old school et les nouveaux arrivants. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez la moitié des artistes qui sont présents. Ce que me disait Mademoiselle Neveu, c'est que vous avez les pionniers comme Mystique, Ernest Pignon, ou encore Gérard Zlotikamienne. Et les nouveaux qui arrivent sont Réro, Ludo ou encore Vils. Et la présence de deux femmes. Voilà, les femmes sont représentées. Swoon et Mystique.
Deux femmes sur combien d'artistes?
Sur 11.
D'accord.
Bon, ça ne suit pas la parité du gouvernement.
L'être humain en général est représenté. Voilà,
mais j'ai rien dit. J'ai demandé, une question.
Oui,
mais
c'est bon.
Ta question était pleine de sens.
On attendait de savoir s'il y en avait qui vient des îles.
Enfin, j'ai pas entendu. entendu ce que t'as dit, Étienne.
Non, oh, elle vaut mieux pas, mon ami.
T'as dit quoi?
Mais moi, je me posais la question.
Étienne, Richard, je
par rapport à ces mecs, justement, Shepard Ferré, Banksy et tout ça, ils sont souvent attaqués justement parce que le street art, c'est quand même censé être du street art, oui, et un art un peu subversif. À partir du moment où c'est dans une exposition, ou je sais pas s'ils font payer l'entrée ou quoi, en tout cas, ça institutionnalise quelque part un peu la...
L'exposition peut être subversive.
Ouais, mais oh, tu vas faire rentrer du street art dans un musée, c'est spécial comme démarche.
C'est décalé, c'est
certes,
ça.
Certes, mais
fait,
c'est une reconnaissance voilà, du caractère artistique du street art.
Mais justement, est-ce qu'on a besoin de est-ce que le street art a besoin de la reconnaissance des musées pour
quand
exister
même, quand même.
C'est pas la reconnaissance des musées.
Ça peut permettre à certains qui le connaissent pas aussi de le voir et puis surtout de regrouper les œuvres en un endroit, quoi. Surtout ça.
Tu as quoi varier, tu sais, si t'es un collectionneur d'art, t'as quoi varier ta galerie, parce que
mais
si,
mais clairement,
si t'es chez toi, tu mets un Picasso ou un Van Gogh, c'est bien de mettre un petit peu ce qui sort de la rue, quoi.
Je pense que le mec qui met un Van Gogh chez lui, il mettra jamais du street art.
C'est... Non, mais il y en a. Si, justement.
Regarde peut-être le mur de Banksy et tu verras.
Banksy
que
se vend énormément et tu peux te demander clairement. Lui, il se dit en gros, bon, je les enfume un peu parce que les collectionneurs achètent mes trucs des millions et des millions de dollars. Mais bon, quand même, à un moment, c'est bizarre de se revendiquer street artiste subversif et de vendre ses œuvres à des mecs qui sont complètement dans le système.
Il faut bien qu'ils vivent.
C'est ça,
en fait.
Oui.
Bah ouais, mais
il vit de ça parce qu'il conteste quelque chose, mais il faut bien qu'il ait une rentrée d'argent.
Et puis tu peux être.
Je suis pas sûr qu'il faut bien qu'il ait une rentrée d'argent.
Oui, ah bah, mais quand tu même. Peux être street artiste et puis après en.
Quelque part c'est illégal, hein, comme enfin le street artiste.
C'est,
le street
illégal,
art,
c'est illégal.
Illégal,
mais tu.
Mais à partir du moment où tu rentres dans une expo, c'est plus du tout une, c'est plus du tout une question. Tabac, enfin, tu vois, ça transforme.
Tabac en soi,
le fondement.
Santé, c'est illégal. Ça rentre dans les tabacs, c'est légalisé, mais ça continue à faire du mal. Tandis que là, le street artisme. C'est juste visuel. On aime ou on n'aime pas, on adhère pas.
C'est tout un débat.
C'est tout un débat et je vous propose de vous faire votre propre opinion en allant voir, entre autres, pourquoi pas, donc l'exposition dont nous a parlé Ahmed. Aujourd'hui, vous retrouverez bien entendu toutes les informations sur le groupe Facebook de l'émission www.facebook.com/checklactu. En attendant, nous, chinavré, mais checklactu, c'est déjà terminé. Donc, on retrouve la semaine prochaine tout le monde, sauf ceux qui sont traumatisés et qui ne voudront pas revenir. Si on pouvait avoir un générique en régie, ça serait fort aimable. Et puis voilà, émission donc génial. Merci la régie. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine. On vous remercie d'avoir été avec nous. On dit au revoir à Marie, au revoir à Nicolas.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir définitif, je l'espère.
Je vais revenir rien que pour te l'emmerder.
À François, à Ahmed et à Tara. Et puis,
c'est triste quand ça termine.
Oui, c'est triste. Mais bon, on a le générique pour gagner un peu tout ça. Tu vois, c'est dynamique et ça permet de.
Question qu'on pleure pas, quoi.
Exactement. Allez, à la semaine prochaine, tout le monde.